On a tous ce petit cinéma intérieur, vous voyez, cet endroit où on se projette, où on imagine une vie un peu idéale.
Ah oui, complètement.
Ces fameux « un jour je ferai ça », « un jour j'écrirai ce livre », « un jour je serai en forme ».
Le fameux « un jour ».
C'est ça. C'est grisant, ce sentiment de potentiel. Mais bon, si on est un peu honnête, combien de ces « un jour » deviennent vraiment réalité ?
Très peu, souvent.
On a l'impression qu'il y a une sorte de fuite entre le rêve et la réalité. Et c'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui. Cette danse entre les rêves qui nous inspirent et les objectifs qui, eux, nous font vraiment avancer.
C'est tout à fait ça. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur un article très bien fait du site Life Architecture.
D'accord.
Il s'appelle « Rêves et objectifs. 8, distinction clé pour passer à l'action ». L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce lien se brise si souvent.
Et qu'est-ce qu'il dit, en gros ?
En fait, il pose une base très simple. Les rêves, c'est le grand pourquoi, la vision, l'émotion. Et les objectifs, c'est le comment. Ce sont les marches d'escalier concrètes pour y arriver.
J'aime bien cette image de l'escalier.
Voilà. Sans le rêve, l'escalier ne mène nulle part. Et sans l'escalier, ben, le rêve reste juste un rêve inaccessible.
L'article est d'ailleurs assez poétique sur la nature du rêve. Il parle de se tenir au bord d'une falaise, de regarder cet horizon infini de possibilités. C'est vertigineux.
Oui, c'est ça. Le rêve n'a pas de limite, il se fiche un peu des contraintes. C'est le désir à l'état pur.
Tout à fait. Ça me fait penser à la citation d'Harriet Tubman que la source met en avant.
Laquelle ?
Tout grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours que vous avez en vous la force, la patience et la passion. Pour en gros atteindre les étoiles et changer le monde, c'est puissant.
C'est le carburant, c'est indispensable. Mais ce qui est intéressant, c'est comment l'article met ça en contraste avec la nature beaucoup plus terre-à-terre d'un objectif.
Ah oui.
Si les rêves sont les étoiles, les objectifs, ce sont les plans de la fusée pour les atteindre. Un objectif, lui, il est spécifique, mesurable, il a un calendrier.
Il traduit la magie en quelque chose de concret.
Exactement. C'est là que la citation de Tony Robbins, qui est aussi dans l'article, prend tout son sens. Il dit « Se fixer des objectifs est la première étape de la transformation de l'invisible en visible. »
On fait passer une idée du monde de l'imaginaire au monde physique.
Voilà.
Bon, alors, allons-y. La première grande distinction que l'article souligne, c'est « clarté contre ambiguïté ».
Oui.
Il compare les rêves à des nuages. C'est une super métaphore, je trouve. C'est beau, c'est grand, mais la forme est vague. On ne sait pas par où l'attraper.
C'est exactement ça.
Et l'exemple qu'il donne est parfait. Rêver de faire la différence dans le monde. C'est super, mais concrètement, lundi matin, je fais quoi ?
C'est tellement flou que ça peut être paralysant. Et c'est là que l'objectif agit comme un projecteur qui dissipe le brouillard. L'article dit que l'objectif, ce sont des coordonnées GPS. Ça donne une direction.
D'accord.
Si on reprend ton exemple, le rêve de « faire la différence » devient un objectif très clair. Je vais faire 5 heures de bénévolat par semaine à la banque alimentaire locale. Et là, tout de suite, l'action est évidente.
Oui, ça n'a plus rien à voir.
Pareil pour le rêve de posséder une maison, c'est une montagne. Mais si l'objectif devient épargner 30 000 euros pour l'apport d'ici 3 ans en mettant 833 euros de côté chaque mois, la montagne se transforme en une série de petites collines. On sait quoi faire aujourd'hui.
C'est vrai que ça rend les choses beaucoup moins intimidantes. Mais je me pose une question. Est-ce qu'en découpant ce grand rêve en petites tâches presque administratives, on ne risque pas de perdre la flamme, la magie ?
C'est une excellente question et c'est un vrai piège.
Ça devient juste une autre ligne sur une to-do list.
L'article suggère que la clé, c'est de ne jamais oublier le lien entre les deux. L'objectif n'est pas une fin en soi, il est au service du rêve. Chaque fois que tu mets ces 833 euros de côté, tu ne fais pas que déplacer de l'argent.
Je pose une brique de ma future maison.
C'est ça. Chaque heure de bénévolat, c'est un acte concret qui donne vie à ton rêve. L'objectif, c'est la preuve que tu avances. Et ça, ça nourrit la motivation.
Je vois. L'objectif devient un rappel constant du rêve. Ce qui nous amène à la deuxième distinction, l'intangible contre le concret.
Mmh.
Un rêve, ça existe dans l'esprit. C'est une belle image, mais un peu derrière une vitre. L'article utilise une autre métaphore que j'aime beaucoup.
Ah oui ?
Si rêver, c'est comme faire un vœu en regardant une étoile filante, se fixer un objectif, c'est comme construire la fusée pour l'atteindre.
J'adore. Sans la fusée, le rêve reste une pensée magique. Un « j'aimerais bien que… » c'est passif.
Voilà. Le mot-clé, c'est passif.
Exactement. Alors que les objectifs, eux, ils exigent une posture active. Ils forcent à se poser la question qui fâche un peu. Ok, super idée. Et maintenant, quel est le plan?
C'est ça.
C'est ce plan d'action qui fait toute la différence. On passe de passager de sa vie à...
À capitaine de son navire. Le rêve de perdre du poids reste une idée. Le plan, c'est « Je vais à la salle 3 fois par semaine et je remplace les sodas par de l'eau. » Chaque phrase est une action.
C'est marrant, ça me rappelle ma tentative d'apprendre la guitare.
Ah.
Mon rêve, c'était de jouer comme Hendrix, de ressentir le truc. Mon objectif, c'était pratiquer 30 minutes de gamme tous les jours.
Très concret.
Très concret. Mais au bout d'une semaine, c'était tellement mécanique que le rêve d'Hendrix me paraissait plus loin que jamais. Et j'ai abandonné. Mon plan était déconnecté de l'émotion.
C'est l'exemple parfait du danger dont tu parlais. Un bon plan d'action doit être concret, mais il doit aussi être aligné avec le pourquoi du rêve.
D'accord. Dans ton cas, un meilleur plan aurait pu être apprendre les 3 accords de base pour jouer une chanson simple que j'adore d'ici la fin de la semaine.
Ah oui, là c'est directement lié au plaisir.
C'est ça. L'action est toujours concrète, mais elle est connectée à l'émotion. Le plan doit donner un chemin motivant.
C'est une nuance énorme. Avoir un plan, c'est bien. Avoir le bon plan, c'est mieux.
Tout à fait.
Mais même avec le bon plan, il reste cet ennemi terrible. Le fameux « je le ferai demain ». Au pire, un jour.
Ah, un jour.
L'article est assez dur avec cette expression. Il dit que c'est un mensonge confortable. Une façon polie de procrastiner à l'infini.
C'est un peu le cimetière des bonnes intentions. Et l'auteur a raison. Un jour n'existe sur aucun calendrier.
Alors comment on combat ça?
La seule arme, ce sont les délais. Les échéances. Elles créent une tension positive. Une sorte de sentiment d'urgence qui nous pousse à agir. Le vague « Un jour j'écrirai ce livre » devient réel quand on dit « D'ici le 1er juillet, j'aurai écrit les 3 premiers chapitres ».
Ce n'est plus un souhait, c'est un rendez-vous.
Exactement. Un rendez-vous avec soi-même.
D'accord, mais je sens venir l'objection. Les délais, ça peut être super stressant. Si on rate l'échéance, on se sent nul et on risque de tout laisser tomber.
C'est vrai. Et c'est là qu'intervient une autre facette des objectifs, le suivi des progrès.
C'est-à-dire ?
Un rêve comme être en meilleure santé est impossible à mesurer. On ne sait jamais si on a réussi.
C'est trop vague.
Voilà. Mais un objectif comme abaisser mon cholestérol à 180 mg décilitre en 6 mois, ça permet des points de contrôle. Au bout de 3 mois, on fait une prise de son, on voit qu'on a déjà baissé un peu.
On n'a pas encore atteint la cible, mais on voit qu'on avance.
C'est ça. Ces petites victoires sont fondamentales. Elles transforment le parcours en un jeu où on gagne des points plutôt qu'en un examen où on risque d'échouer. Ça nourrit la motivation.
Donc c'est moins la date butoir que le chemin parcouru qui compte. C'est rassurant.
Mmh.
Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans notre tête. Mais ça reste une démarche très solitaire.
C'est vrai.
Et c'est facile de rompre un contrat avec soi-même, la nuit sans témoin. Quelle est la place des autres dans tout ça?
Tu mets le doigt sur la 4e distinction, la responsabilisation. L'article décrit les rêves comme des jardins secrets. C'est intime et ça ne repose que sur notre propre motivation qui fluctue.
Forcément.
Quand on transforme ce rêve en objectif, on peut ouvrir la porte de ce jardin. La responsabilisation, c'est inviter quelqu'un à y entrer.
Par exemple ?
Partager ses objectifs avec un ami, engager un coach, rejoindre un groupe qui a les mêmes buts. Le simple fait de dire à voix haute à quelqu'un « Mon objectif est de courir un 10 km dans 3 mois », ça crée une sorte de contrat social.
On n'a pas envie de décevoir l'autre ?
C'est une force extérieure qui vient aider notre volonté quand elle faiblit un peu.
C'est comme avoir un copilote. Ça m'amène à la dernière distinction de l'article qui est, je trouve, la plus complexe. L'adaptabilité contre la rigidité.
Ah oui, c'est le paradoxe final.
D'un côté, les rêves sont fluides, ils peuvent changer, et c'est bien. De l'autre, on vient de dire qu'il faut des plans précis, des échéances fixes. Ça semble très rigide. Comment on concilie les deux?
C'est peut-être le point le plus important. Le secret, c'est de comprendre ce qui doit être fixe et ce qui doit être flexible.
D'accord.
Le rêve, la vision, la destination finale, ça, c'est l'étoile polaire. Ça doit rester assez stable. Mais le chemin pour y arriver, donc l'objectif, lui, doit être adaptable.
La vie est imprévisible.
Exactement. L'exemple de l'article est parfait. Ton objectif est de courir un marathon en octobre. En août, tu te blesses au genou.
Classique.
Une approche rigide dirait « Oh, c'est fichu, j'ai échoué, j'abandonne ».
Ce qui est la réaction la plus probable pour beaucoup de monde. Moi, le premier.
Bien sûr. Mais l'approche adaptable dit « Mon rêve n'est pas de courir ce marathon précis. Mon rêve, c'est d'être une personne en forme qui relève des défis physiques ».
On prend de la hauteur par rapport à l'objectif.
Voilà. La blessure rend l'objectif impossible, mais pas le rêve. L'adaptabilité, c'est de modifier l'objectif. Je vais remplacer la course par du vélo et je viserai un semi-marathon au printemps. On change l'itinéraire, mais on garde la même destination.
L'objectif est un outil. Si l'outil casse, on en prend un autre.
C'est exactement ça. On n'abandonne pas le projet.
Donc, si je résume, ce n'est pas du tout une guerre entre notre côté rêveur et notre côté pragmatique.
Non, au contraire.
C'est une collaboration. Le rêveur donne la direction et l'énergie, et le pragmatique construit la route brique par brique en s'adaptant. Il y a une phrase dans l'article qui résume tout. Les rêves inspirent les objectifs réalisent les rêves.
C'est la conclusion parfaite. Le grand message de cette source, c'est que l'inaction n'est pas une fatalité, on peut combler le fossé entre ce qu'on veut et ce qu'on fait.
Il ne s'agit pas d'arrêter de rêver grand.
Surtout pas, il faut nourrir ses visions, mais il faut aussi avoir le courage de s'asseoir et de traduire cette vision en une toute petite première étape, puis une autre. Un rêve soutenu par des objectifs clairs et adaptables, ce n'est plus une fantaisie. Comme le dit l'article, c'est un avenir qui attend d'être déverrouillé. Pour laisser une dernière pensée à méditer, on a beaucoup parlé d'adapter ses objectifs. C'est une compétence cruciale, mais ça soulève une question délicate.
Laquelle ?
Si un objectif doit être flexible, à quel moment est-ce que le fait de le modifier constamment n'est plus de l'adaptation intelligente, mais devient une forme déguisée d'abandon ? Comment on fait la différence entre un ajustement nécessaire et une excuse, finalement, pour renoncer à un rêve qui nous fait un peu peur ?